Chapitre 45. Niki de Saint-Phal. L'avenir de l'homme est la femme. L'affaire de Paul commençait à marcher. Non pas la brocante dont il ne s'occupait plus assez, mais son commerce de téléphones anciens rendu compatible avec des cellulaires. Les jeunes entrepreneurs qu'il avait rencontrés lui proposaient des contrats plus que prometteurs. Encouragé par Camille, Paul s'interrogeait. Et s'il était temps de céder la boutique pour se lancer dans cette aventure? Mona, sans oser rien dire, en était perturbée. Allongée à même le sol de la boutique, un crayon à la main, Cosmos à ses côtés, elle cherchait à rattraper le récit de son journal intime. Elle avait commencé celui-ci fin juillet, et y avait déroulé le fil de sa vie depuis sa crise de cécité à l'automne de l'année précédente. La jonction avec le présent était désormais proche, puisqu'elle en était aux événements survenus à la mi-août. Elle racontait, entre les découvertes de Magritte et de Brancusi, l'IRM de contrôle qu'elle avait subi et ce que cet examen avait déclenché en elle. Ivre de vision, elle se laissait transporter par les courants de sa pensée. Elle se rappela que, dans le caisson, elle s'était souvenue d'un passé dont les rives étaient extraordinairement lointaines à son échelle d'enfant. En grattant son cahier, elle eut accès à la Mona du mois d'août qu'elle n'était déjà plus. Et en grattant encore, elle trouva un chemin vers un continent perdu et incertain, celui des tout premiers âges. Son être de 11 ans régressa jusqu'à celui qui jadis n'en avait que 3. Cela produisit un torrentiel jaillissement de sens, une explosion de vérité. Elle revécut ce moment où Colette Villemin, sa grand-mère chérie, lui avait offert le pendentif qu'elle portait autour du cou lors de leur ultime entrevue et lui avait dit « Garde sans cesse la lumière en toi, ma chérie. » La petite Mona s'attendait à la revoir et ne la revit jamais alors qu'elle paraissait si fraîche, si heureuse, si aimante. Ce vide, Mona ne l'avait pas compris sur le moment. Il avait dû lui apparaître comme un insondable mystère, parce que personne n'avait pu lui expliquer ce qu'était cesser d'exister, tandis qu'elle commençait à peine sa propre existence. Avancer dans la vie, c'est faire cet effort ingrat de mettre au jour des blessures qu'on n'avait pas vu venir, et qui, par leur discrétion même, traumatisent l'être tout au fond de son abîme. Sur son cahier, Mona écrivit en une petite graphie serrée et tremblante « De quoi mamie est morte ?» Le chien, levé à ses pieds, bâillait d'aise. Juste à côté du Musée national d'art moderne, sur le flanc sud, il y avait un grand bassin d'environ 600 mètres carrés parcouru de 16 sculptures posées sur l'eau et animées par des mécanismes divers. Mona approcha et remarqua sur la vaste façade d'un immeuble voisin une grande œuvre d'un artiste urbain peinte à même le mur, juste à côté de l'église Saint-Merry. La fresque représentait, en un format monumental, la moitié d'un visage, un doigt sur la bouche, comme si l'on demandait à la rue entière de faire silence. Était-ce pour inviter la foule à contempler la fameuse fontaine? Peut-être. Ou bien était-ce pour écouter celle-ci? Pourquoi pas? Car la fontaine, quoique muette, était subtilement musicale. Henri précisa qu'on devait la création de ces lieux à un couple d'artistes. Les pièces noires, qui ressemblaient à des machines absurdes et déglinguées, étaient du Suisse Jean Tingly. Les pièces colorées, et notamment le très curieux chef d'orchestre, dont la couronne dorée faisait jaillir des gerbes d'eau, un oiseau de feu, étaient signées de son épouse, Niki de Saint-Phal. Ces deux-là, dit Henri, se définissaient comme les Bonnie et Clyde de l'art, de véritables enfants terribles, où chacun stimulait la folie de l'autre. Mona, en tout cas, éprouva une nette préférence pour Bonnie et regardait hypnotisée sa femme sirène au sein gigantesque, mais surtout son serpent en spirale tournant sur lui-même. « Ça pourrait être un tire-bouchon, » murmura-t-elle en s'entortillant les cheveux. Henri savait que la naïveté de ce commentaire aurait beaucoup plu à la sculptrice et ne lui donna pas tort. Il lui proposa d'aller voir une autre de ses œuvres parmi les collections du Centre Pompidou. « Validé !» approuva Mona avec enthousiasme. C'était une gigantesque mariée vêtue de blanc. Et même plus que cela, c'était une mariée entièrement blanche, ou plutôt grisâtre, argileuse. Depuis la base de son énorme robe plissée jusqu'à la masse filasse de ses longs cheveux raidis, en passant par le bouquet qu'elle serrait contre sa poitrine. Tout était si plâtreux que la supposée pureté qu'on attache aux noces virait ici au grotesque. Cette femme avait tout d'un fantôme, et cette impression était renforcée par ses aberrantes proportions. Tandis que la taille du personnage était environ un tiers plus grande que celle d'une morphologie standard, la tête échappait à cette monumentalité. Elle s'avérait trop petite en comparaison de l'ensemble, comme si elle avait éclos d'un corps énorme et pesant. Quand on la regardait de face, elle penchait légèrement sur la droite, et le visage était à peine suggéré à la façon d'un masque grossier. Il y avait tout de même une fente pour figurer la bouche, on eût dit qu'elle poussait un long râle. Mais là où l'effigie se montrait terrifiante, c'était au niveau du buste. La mariée y serrait un bouquet de fleurs ossifiées. Il était dans la main droite, tandis que celle de gauche, colossale, sorte d'extrapolation dégénérée de Rodin, reposait sur le ventre. La poitrine et les bras ressemblaient à une vaste matière grouillante, pourquoi pas à une chair en décomposition. En fait, la sculpture était à ce niveau-là un agrégat d'innombrables objets qu'on discernait très bien pour certains, qui étaient noyés pour d'autres, des jouets notamment, et surtout beaucoup de poupons. On tombait aussi sur une maquette d'avion, des cyclistes, des carrosses, des petits canards, des serpents, des oiseaux, une paire de souliers d'enfants. Mona contempla l'œuvre en frissonnant à maintes reprises. Elle la sentait chargée d'une existence sombre. C'était vrai. Niki de Saint-Phalle avait eu une jeunesse difficile, si difficile qu'Henri évita d'en distiller les détails lugubres. Il se contenta d'expliquer à l'enfant qu'elle avait traversé quelques épreuves. Il lui épargna les faits les plus tragiques. Il tut les agressions sexuelles dont Niki de Saint-Phalle fut victime de la part de son père, l'agonie de sa grand-mère lors d'un incendie dans son château occupé par les nazis, le suicide de sa sœur. Toute cette violence familiale, Henri ne souhaitait pas en faire part, ne serait-ce que pour éviter qu'une trop grande ombre portée de cette vie malheureuse sur les œuvres de l'artiste leur donne une symbolique exclusivement mortifère.
« Moi, Dadé, quand je vois ça, je repense à Goya, tu sais, et aux monstres, et à Hammershøi, et aux histoires de trolls dans les légendes nordiques, et à cette tête que j'avais cru voir dans la manche plissée du portrait de sa femme de dos. Elle est comme un fantôme, cette mariée, comme si elle s'était asséchée dans un placard. Et maintenant que je la vois, je me dis que les sculptures qui bougeaient sur le bassin tout à l'heure avaient aussi un peu une apparence de monstre. »
Niki de Saint-Phalle le concède. Les monstres la fascinaient. Elle disait qu'elle avait vu quantité de films qui en étaient pleins, et elle ajoutait, il cita de mémoire, « J'en ai moi-même fait un nombre incroyable. Je suis capable de me renouveler sans fin sur ce thème. Mais je suis sûr que tu as remarqué tous les jouets scellés dans le plâtre. »
« Oui, bien sûr. J'ai tout de suite vu le petit baigneur en plastique sous son menton. Et puis il y a des poupées partout. Et même une maquette d'avion au niveau de l'épaule. Et juste au-dessus un oiseau. Si c'était pour donner un côté joyeux, c'est raté. »
Je te rassure, l'artiste savait très bien que cet agglutinement ne rendrait pas sa mariée plus gaie. En réalité, elle collectionnait les jouets. Elle en accumulait des quantités déraisonnables. Non seulement des poupées, mais également des créatures préhistoriques, comme on en trouve dans la malle des enfants, et qui finissent fatalement un jour au grenier parce qu'on grandit.
Elle fait un peu comme Marcel Duchamp. Elle prend des choses qui existent déjà et ça devient des œuvres d'art.
Oui, il y a de cela. Elle fait d'ailleurs partie d'une tendance plus large de toute l'histoire de l'art des années 1960 qui consiste à s'approprier des objets, à simplement les sélectionner et à les recombiner entre eux. En France, c'est ce qu'on appelle le nouveau réalisme. Et parmi les artistes qui en font partie, il y a bien sûr Niki de Saint-Phalle, mais également Armand, par exemple, qui avait rempli avec des déchets toute une galerie.
« Bah là, c'est une poubelle de jouets. »
« Pertinent, ma chérie. C'est comme si l'univers de l'enfance assaillait et oppressait cette femme. Cette mariée est de 1963. Son aspect rigide, cadavérique, est à rebours de l'image traditionnelle qu'on a des noces pleines d'entrain. Mais cette sculpture, dont le visage semble déchiré par un cri, est aussi l'expression d'une révolte. La décennie 1960 a été celle de très nombreuses luttes à travers le monde pour davantage de liberté et de tolérance, pour l'égalité entre les êtres, contre les guerres et l'impérialisme. Niki de Saint-Phalle, avec cette mariée qu'on croirait à l'agonie, pousse un hurlement.
Et il dit quoi, ce hurlement ?
Que les femmes ne doivent pas être figées dans un rôle de bonne épouse. Les femmes doivent pouvoir défendre leurs désirs et faire leurs propres choix, quels qu'ils soient, même les moins convenables.
Et qu'est-ce qu'elle a fait comme choix, Niki de Saint-Phalle ?
Eh bien, Henri laissa passer un long temps. Eh bien, par exemple, Niki de Saint-Phalle a assumé à un moment de sa vie qu'elle ne serait pas une mère modèle. Elle s'est vouée à son art, c'est-à-dire à elle-même, plutôt qu'à ses enfants.
« Elle était en colère, »
souffla Mona, les yeux plissés. Oui, elle a d'ailleurs réalisé des œuvres qu'elle appelait des tableaux-tirs. Elle prenait une carabine et visait la toile. L'impact des balles faisait éclater des gerbes de couleurs. Mais pour bien saisir cette artiste, dis-toi que chez elle, l'image des femmes est placée sous le signe du dualisme. C'est une image à deux faces. Sa mariée n'est pas qu'une expression de la mort. Elle est aussi un appel à une renaissance féminine sous un autre aspect que celui de l'épouse dévouée.
Lequel ?
Celui de la sirène colorée que tu as vue dans le bassin tout à l'heure, par exemple, et surtout sous l'aspect de ces fameuses nanas, des sculptures de femmes en train de s'élancer, de danser, de sauter. Elles sont rondes avec des corps aux hanches énormes et une tête minuscule. Mais elles sont vivantes, libérées des diktats de la société. Elles incarnent un avenir radieux, à l'opposé de la mariée, symbole d'un passé aliénant où les désirs sont bafoués.
Je comprends cette histoire de double image, mais qu'est-ce qui en découle comme leçon ?
En 1963, la même année que la création de cette mariée, un poète très engagé politiquement, résistant et communiste notoire, écrit un vers qui correspond exactement à la leçon que nous donne Niki de Saint-Phalle.
Qui est ce poète ? Et qu'est-ce qu'il dit ?
Il s'appelle Louis Aragon, et il écrit ceci. « L'avenir de l'homme est la femme. »
Oui, d'accord. Mais Niki, elle aurait dit « L'avenir de l'homme est la nana. »
Tout juste. Mais permets que je garde le vers d'Aragon un peu plus austère. L'enfant serra le pendentif qu'elle ne devait plus quitter. Elle songea qu'elle l'aurait volontiers placé autour du cou de la mariée pour l'aider à vaincre sa peine.
« C'était une jeune femme combative, »
dit enfin Mona d'une voix claire. Henri la regarda, stupéfait. L'expression le troubla. C'était celle qu'il entendait si souvent au sujet de Colette jadis. Or, dans la façon dont l'avait articulée sa petite fille en pressant le céré de gommier, le vieil homme s'imagina qu'elle y faisait peut-être allusion. Ils restèrent longtemps sans ajouter un mot, jusqu'à ce qu'Henri rompit le silence. Oui, Niki de Saint-Phalle fut combative, Mona. Et ta grand-mère l'était aussi, tu peux en être certaine. Jusqu'au bout.
Je sais, Dadé.